peut-être un peu.
Menons, nous avons des gros moyens de calcul hein, et différents chercheurs, et nous avons une histoire de bien connaître à la fois le réseau électrique en France et interconnecté, et les différents moyens de production. Et donc, nous menons beaucoup d'études hein, sur la compatibilité entre la consommation, les besoins de consommation et les besoins de production. Et nous menons des études qui tiennent compte, au-delà du réseau électrique, de ce qui est en amont, c'est les différents moyens de production, donc des moyens de production pilotables, comme les centrales nucléaires ou les centrales hydrauliques, et puis des moyens de production qui se développent, qui sont de plus en plus importants en France et en Europe, donc renouvelables, et qui sont notamment le photovoltaïque et l'éolien. Donc ces équilibres-là font l'objet de beaucoup d'études. Et là, j'ai fait le choix de vous présenter une étude en 2040. Alors, le choix de l'année n'est pas au hasard. Il est assez consensuel et assez intéressant. Consensuel en ce sens que ce n'est pas 2035, en sachant qu'il y a une échéance donc de la loi. Donc, j'ai pris plutôt une étude un tout petit peu après. Hein. Et puis, ce n'est pas 2050, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de scénarios actuellement dans le cadre de la transition climatique qui font état de 2050. Bien sûr, dans les questions-réponses, on pourra faire le lien avec ces différentes dates. Hein. Il n'y a pas de difficulté pour moi. Alors, pour démarrer, j'ai un certain nombre de chiffres. Hein, et puis, à la fin, j'ai des choses assez visuelles qui vont vous montrer comment réagissent les flux d'énergie et puis les moyens de production en France. Alors, je vais aller un petit peu doucement, hein, puisque je ne vais pas trop développer donc, la programmation pluriannuelle de l'énergie, hein, donc, qui est calée de par la loi entre 2019 et 2028. Hein. Pour l'anecdote, hein, nous avons commencé les discussions hein, de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, pour l'instant, ça va doucement compte tenu du contexte électoral, mais il y a déjà, avec l'État, avec les ministères, une quinzaine de groupes de travail. Hein. Et donc, moi, je suis plutôt associé à un groupe qui est plutôt en charge de la production nucléaire. Hein. Là, vous avez un rappel du texte de la PPE. Alors, je l'ai laissé parce que c'est la loi, c'est ce qui est aujourd'hui. On peut penser, vu les candidats qui sont encore en lice, que ça va bouger, donc nous verrons bien. Néanmoins, les tendances de fond sont présentes, et je voudrais vous souligner déjà un premier repère, c'est la consommation finale d'énergie en France. On la compte en terawattheure, hein, c'est l'unité que je vais utiliser dans toute la présentation, donc de consommation d'énergie, et en France, hein, en 2021, on est autour de 1600 TWh. On est un petit peu en dessous, mais c'est 1600 TWh. Et donc, c'est l'addition de la consommation d'électricité, de gaz, de produits pétroliers, de chaleur et d'énergie renouvelable, hein, notamment pour produire des biocarburants. Les effets climatiques, alors, comme le disait M. Fournier, vous avez eu des présentations récentes sur la transition climatique, donc vous êtes sûrement très habitué à voir l'échelle de valeur de la participation des produits au gaz à effet de serre. Donc le produit pétrole, c'est lui qui a eu une importance forte, donc à 60% hein, d'effet sur les gaz à effet de serre en France, hein, c'est la valeur en France. Vous avez l'impact du gaz et vous avez l'impact de l'électricité, donc en bleu, et puis d'autres moyens de production. Voilà, ça donne des repères. Je dirais le premier repère à avoir en tête, c'est 1600 TWh. Alors, on va continuer. Donc, vous savez que nous sommes, compte tenu de la transition énergétique, dans du développement d'énergie renouvelable, donc qui sont assez conséquents, hein, puisque si vous prenez le PV hein, en bas, le photovoltaïque, donc, à la fin 2021, donc, il y a 13 000 MW installés hein, en France. Hein, et la volonté de certains candidats, c'est d'aller à 100 000 MW installés en 2050. Vous voyez, il y a eu un développement conséquent, hein, un facteur 10 en 28 ans. L'éolien. Donc l'éolien est plus installé, hein, l'éolien avec 18 000 MW installés. Actuellement, l'éolien est installé sur Terre, hein, et il y a 7 parcs qui sont attribués en mer, environ 500 MW chacun. EDF, avec des partenaires, est attributaire de 4 parcs sur 7. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans les médias, la télévision, ils ont présenté Saint-Nazaire, hein, c'est gigantesque, hein, une éolienne hein, en mer. Et donc, ces développements sont très conséquents. Et la tendance, c'est de développer beaucoup l'éolien en mer. Hein, puisque, en fait, le régime du vent est assez régulier en mer. Alors qu'en France, on a 3 régimes de vent. Donc, on a l'ouest, on a la partie sud, puis plutôt le nord. Et ils sont assez inconstants. Quoi. Alors qu'en mer, c'est beaucoup plus constant. C'est ce qui explique cette tendance. Et il y a une raison qui est rarement racontée dans les médias. Pourquoi on avance moins vite en France sur le développement de l'éolien en mer ? Bon, on peut toujours parler de procédures juridiques, c'est une chose. Mais tout simplement parce que la mer est plus vite profonde. Alors que quand vous êtes au large des côtes au nord de l'Europe, de l'Allemagne ou de la Hollande, c'est très très plat. Et ça descend un peu. Donc ça facilite énormément le développement, c'est normal, hein, c'est logique, de l'éolien en mer dans ces secteurs-là. Pour nous, c'est plus cher, quoi, c'est plus compliqué. Donc il faut une infrastructure beaucoup plus conséquente. Voilà, donc on va vers un mix énergétique. Donc on va, d'une manière ou d'une autre, très probablement, être assez équilibré. Entre, il nous faut des moyens pilotables, comme des centrales nucléaires ou des centrales hydrauliques, pour compléter la variation de la production du photovoltaïque, puisqu'on ne produit que le jour. Alors on peut faire un tampon avec des batteries, mais ça ne dure pas toute la nuit pour l'instant. On pourra en reparler. Et puis l'éolien. Alors le vent est quand même très irrégulier hein, en France. Je regardais les deux derniers jours, il n'y avait que 5% de production à partir de l'éolien en France. Quoi. Donc c'était très très faible. Les autres moyens de production donc, sont en. Vous avez le gaz, vous avez le charbon qui est en baisse, hein, et puis un reste de fuel et d'énergie. Il s'agit bien de moyens de production installés pour toute la France. Hein. Je ne parle pas que des moyens de production d'EDF. Hein. Dans tout mon propos, je parle de tous les moyens de production pour la France. Si bien que en 2021, alors les repères sont importants. Le repère sur lequel je vais insister, c'est la consommation. La consommation, parce que dans toute l'étude, le paramètre le plus fort, la plus grosse sensibilité, vous allez voir, c'est la consommation. Et donc, la consommation en 2021, 468 TWh. On baisse tout doucement, hein, même s'il y a un petit peu de réindustrialisation, mais il y a quand même beaucoup de travaux d'efficacité énergétique qui font qu'il y a un petit peu de baisse de consommation. Bon, c'est logique. Et l'évolution des usages est encore assez lente, même si on voit l'usage véhicule électrique qui augmente sensiblement. Voilà, sur ce transparent, donc un paramètre clé, 468 TWh, hein, et autrement, vous avez les valeurs de production de l'énergie nucléaire, 360 TWh en 2021, puis 60 d'hydraulique, et puis autrement, vous avez du thermique, hein, qui était quand même assez conséquent encore ces deux dernières années. Et puis bien sûr, la partie verte et la partie verte et puis la partie jaune, photovoltaïque et éolien. Bon, on va y revenir. Alors, pour travailler, comme je vous le disais, là c'est une étude que nous avons menée à un horizon 2040, et pour mener cette étude, ce qui est important de connaître, c'est que nous sommes dans un réseau électrique qui est interconnecté avec nos voisins. Alors, l'interconnexion, elle est très variable d'un pays à l'autre. On a assez peu de lignes actuellement avec l'Espagne. Il y en a plus vers l'Italie, plus vers l'Allemagne. Et on a des lignes sous-marines aussi vers l'Irlande ou vers l'Angleterre. Donc, il y a différentes interconnexions. Et finalement, ce qui limite souvent les flux de puissance, on va le voir dans la présentation après, c'est quand même la capacité physique des lignes existantes à faire transiter l'électricité. S'il n'y a pas assez de lignes, il n'y a pas assez de passages. Donc, Dans cette étude-là, nous avons pris toutes les données européennes connues en 2018 sur les développements en Europe et les développements des interconnexions surtout. On a pris les valeurs des interconnexions. On sait très bien qu'il y a toujours un peu de retard dans les travaux d'interconnexion, donc on a pris un peu de marge, mais on a vraiment tenu compte de ce paramètre. Voilà. Donc, on va revenir sur les hypothèses de chiffres, hein, et on a pris l'hypothèse qu'en 2040, nous aurions presque 60 000 MW d'éolien installés, hein, et 45 000 MW de photovoltaïque installés, hein, en 2040. C'est une hypothèse. Alors, c'est une hypothèse, là aussi, c'est quel parc nucléaire peut-on considérer en 2040 ? Alors, volontairement, dans cette étude, c'est pour ça que je vous ai dit, dans cette étude, j'ai choisi celle-là, puisqu'il y a plein d'autres études qui sont en 2045 ou 2050, où là, vous retrouvez beaucoup de réacteurs EPR. Tout dépend du cadencement du démarrage des réacteurs EPR. Et là, c'est quand même plus assujetti à des décisions politiques et à du débat public. Donc, l'avantage de ces études, ça permettait de ne pas prendre d'hypothèse sur des EPR, sauf Flamanville, qui comptait, bien sûr, vous allez voir, et de faire une hypothèse, deux hypothèses. Une hypothèse où tout le parc 900 MW, dont une grande partie aura 60 ans en 2040, puisque le gros a démarré dans les années 80. Hein. Donc en 2040, il aura 60 ans. Donc on a pris l'hypothèse maximale où il serait déclassé et une autre hypothèse où c'est partiel. C'est vraiment un scénario, hein. c'est pas la réalité. Hein. J'insiste bien. Sachez que nous avons beaucoup de travaux de recherche pour travailler à ce que les réacteurs aujourd'hui en exploitation fonctionnent jusqu'à 60 ans. Donc certains iront à 50, d'autres à 60, mais certains à 70 ans. Donc nous travaillons à cet effet. Bien sûr, il y a des autorisations de l'autorité de sûreté à obtenir, des démonstrations à porter. Là, c'est une étude avec des hypothèses où on prend un jeu d'hypothèses. Donc voilà. Donc déclassement partiel ou déclassement total. Voilà. Donc ce qui fait deux valeurs de puissance installée. Alors aujourd'hui, la puissance installée en France en réacteur nucléaire est de 61 000 MW, hein, puisque j'ai retiré les deux réacteurs de Fessenheim qui sont arrêtés. Hein. Donc nous étions à 63 000, donc on retire 1800, et donc on est autour de 61 gigawatts. Et là, dans les deux scénarios, on prend un scénario où on a une puissance installée en réacteur nucléaire, donc qui est assez élevé, donc de 54 000 MW installés, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un nombre limité de réacteurs qui ont été déclassés, 16 tranches, et puis l'autre scénario, 34 000 MW installés, donc ce qui est une valeur basse, et à ce moment-là, donc tous les 34 réacteurs 900 sont supposés déclassés, on a déjà deux, hein, ceux de Fessenheim, et puis on suppose que les 20 réacteurs 1300 sont toujours présents, et on suppose que les quatre réacteurs du palier N4 et les réacteurs EPR sont bien sûr présents. Dans le scénario d'au-dessus, on a supposé que deux autres réacteurs EPR auraient démarré pour avoir une montée de puissance. Donc 54 et 34. Alors, je reviens à la consommation. La consommation, c'est un jeu d'hypothèses qui dépend de beaucoup de paramètres, hein, quand on regarde l'évolution de la consommation, comment la démographie va-t-elle évoluer ? Si la population augmente, forcément il y a plus de consommation. L'efficacité énergétique, donc il y a beaucoup de travaux, hein, il y a beaucoup de regroupements de logements. Vous constatez dans les villes qu'un certain nombre de petites maisons sont transformées par des immeubles, mais qui ont une très forte isolation thermique. Donc ça apporte, pour la population égale, une efficacité énergétique qu'on mesure déjà. On voit déjà des effets de ces évolutions du mode de logement, hein, en France. Hein, c'est déjà sensible. Hein. Et à contrario, les usages de l'électricité vont augmenter, que ce soit au niveau des véhicules, mais aussi dans l'industrie. Il y a des transformations de l'énergie utilisée aujourd'hui qui dégage des gaz à effet de serre, il y aura une transformation vers d'autres sources d'énergie comme l'électricité. Après, il peut y avoir des intermédiaires avec des gaz, mais qui ont été produits avec de l'électricité décarbonée. Donc on a des évolutions qui font que les usages d'électricité vont augmenter, donc il y a des plus et des moins. C'est pour ça qu'on se retrouve avec deux scénarios. Vous vous souvenez, donc l'année dernière, en 2021, on était à 468 TWh, donc un scénario bas, où l'efficacité énergétique a beaucoup baissé, et puis les usages ont monté, mais en 2040, l'efficacité énergétique a beaucoup progressé. Et puis un scénario haut, où là, les usages ont beaucoup progressé, et l'efficacité énergétique a augmenté, mais on peut supposer aussi qu'il y a une relocalisation industrielle. Donc un scénario plus haut, une demande plus haute de consommation. Alors, pour faire ces travaux, en fait, on a des chercheurs, mais on a un logiciel qui a plusieurs années d'expérience. Et donc, ce logiciel, hein, qui est la partie centrale de calcul, en fait, on rentre des différentes données. Alors, on va rentrer des données sur le parc de production. Donc, comme je vous disais, on a pris deux scénarios de parc de production, un à 54 gigawatts et un à 34 en nucléaire. Et puis, on va voir les chiffres pour les autres moyens de production. On verra qu'on a une simulation très fine. Donc, je vous montrerai la simulation très fine sur chaque cycle de centrale. Et puis, on a toutes les interconnexions connues, opérationnelles en 2040. On peut faire des calculs de coûts. Donc, je ne vais pas présenter les calculs de coûts, puisque en fait, c'est très dépendant des hypothèses des prix de l'énergie, mais actuellement, ça serait délicat de faire des projections, compte tenu des grandes variations que nous connaissons. Donc, ils n'avaient pas de valeur, les chiffres de nos résultats d'études de l'époque. Nous avons travaillé, alors c'est là la richesse de cette étude, c'est en fait, nous travaillons à partir de scénarios climatiques. C'est-à-dire qu'on regarde sur 30 ou 40 ans en arrière, jour par jour, comment était la météo, et on construit 55 scénarios climatiques. Et par exemple, l'année dernière, en 2021, on a constaté qu'on est tombé dans un scénario climatique qu'on avait prévu, hein, qui était dedans, mais on était aux limites, on était en cas extrême, puisque si vous vous souvenez de l'année 2021, pendant de longs mois, il n'y a eu presque pas de production d'éolien. Il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent. Mais presque 200 jours. Hein, 200 jours sans vent, où on a produit moins de 10% d'éolien à partir du parc installé. Donc on était dans un extrême. Puis il y a d'autres années où il y a beaucoup plus d'éolien. Donc les scénarios climatiques ont une importance très forte dès l'instant que les puissances installées en photovoltaïque et éolien sont développées et croissent. Hein. Et puis la consommation, donc, je vous en ai parlé. Donc à partir de là, on a un code de calcul et qui va nous permettre de sortir des bilans en énergie, des plans de production, des caractéristiques, des émissions de CO2 et surtout des flux d'import et d'export. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, je continue par quelques repères. La flexibilité, là je rentre plutôt côté production, sur la flexibilité des tranches nucléaires françaises. Alors, en fait, elle est atypique, hein, puisque dans le monde, il y a environ 400 réacteurs nucléaires, et il y a uniquement en France, où dès 1983-84, on a modifié la manière de piloter les réacteurs. C'est-à-dire que pour piloter un réacteur nucléaire, on utilise de l'eau avec du bor. Donc là, et puis on utilise des grappes, hein, donc des doigts qui vont dans les assemblages combustibles et qui, avec des produits qui mangent les neutrons. Hein. Donc ça permet de réguler la puissance nucléaire. Et en fait, tous les réacteurs dans le monde ont une technologie un peu tout ou rien sur les grappes de commande. Et nous, on a modifié les grappes de manière à ce qu'elles puissent être progressives. Hein. Et donc, cette modification qu'on a mis en place, hein, il a fallu investir, hein, et on l'a utilisé sur la plupart de nos réacteurs, mais ça n'existe pas dans les autres pays du monde. Si bien que nous, ça fait plus de 30 ans que nous réalisons, c'est pas une hypothèse, là, c'est que nous réalisons des variations de production. Hein. Et c'est très fréquent sur des centrales de 1300 MW, hein, comme Nogent par exemple. C'était très fréquent dans la semaine. Nous étions à 100% de puissance nucléaire. On nous demandait, compte tenu de la demande du réseau électrique, de baisser. Donc de baisser à 30%, autour de 30%. On baisse très vite, hein. On peut baisser en moins de 30 minutes. Donc et en général, on reste à un palier bas de 6-8 heures, pas plus, et on remonte en 30 minutes à puissance maximum. Et donc ça permet d'ajuster les besoins de consommation dans la journée et dans la nuit. Et on a poussé des essais, je pense que c'est le slide d'après, oui c'est ça, on a poussé des essais sur un réacteur, sur plusieurs réacteurs 1300 MW et sur 300 jours par an, sur plusieurs années, pour voir, avec deux variations de puissance par jour, pour voir s'il y avait des défauts qui apparaissaient dans la tenue des équipements. Et en fait, ça fonctionne bien. Ça tient bien, ça fonctionne bien. Donc on a une capacité réelle de variation de puissance sur les réacteurs en France. Alors en fait, je résume, hein, donc on a une forte capacité de baisse, hein, qui de 70%, en général 80%, c'est possible, donc de 100% à 30%. Ça va très vite, hein, 30 minutes à la baisse, 30 minutes à la hausse. Hein. On a des outils d'aide au pilotage des opérateurs, parce que ça peut être assez complexe. Hein. Donc il y a tout ce qu'il faut en salle de commande, et ça permet d'optimiser la production par rapport à la consommation, et donc de bien piloter la fréquence à 50 Hz. Alors après, quand on regarde sur une année, quand on cumule, on fait l'intégrale sur une année, finalement c'est pas si énorme que ça, hein, puisque la production totale sur une année, si on prend la partie totale, hein, nucléaire, hydraulique, tous les moyens de production, c'est un peu plus de 500 TWh en électricité. Donc vous voyez que la modulation du nucléaire et de l'hydraulique, c'est que 15 TWh sur les 5 dernières années. Et finalement, ce qu'on constate... Ah, j'ai fait une erreur. Voilà. Ce qu'on constate, c'est que la variation depuis plusieurs années, elle est opérée chaque jour en premier par... il y a des ajustements de fréquence par tous les réacteurs, mais petites variations. Et puis les variations plus importantes sont apportées par l'hydraulique, surtout l'hydraulique qui fait la grosse variation, hein. Et puis c'est complété par des variations de certains réacteurs, et puis il y a des ajustements avec des centrales fioul et charbon et les interconnexions. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que la flexibilité des tranches nucléaires, elle existe. On peut aller assez loin, mais elle est quand même utilisée modérément, hein, puisque c'est la phrase du bas ici. Hein. Donc on assure notre réglage par du thermique, de manière modérée, surtout l'hydraulique et puis et le nucléaire. Mais on va voir dans la simulation. Donc ça, c'est la photo de ce qu'on sait faire, de ce qui existe depuis au moins 5-7 ans. Hein. Ce sont les chiffres des 5 ou 7 dernières années. Voilà. Et l'étude va montrer après, en 2040, que là, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Alors, juste pour préciser que sur la partie nucléaire, mais c'est vrai aussi pour d'autres moyens de production, notre outil de simulation, il est quand même très très précis. Hein. Si vous voyez ici, ici, donc ça c'est la vie d'un cycle sur 12 ou 18 mois d'un cycle annuel du combustible, ou 18 mois d'une tranche. Donc ça représente la en partie noire. Quand on est à pleine puissance, il y a des parties blanches, parce qu'on est obligé de faire des essais périodiques, souvent ce sont des essais mensuels, donc on fait des essais où on baisse quelques heures la puissance, hein. Et puis il y a quelques opérations de maintenance qui peuvent s'opérer, hein. Donc il y a des essais, plutôt les très fins, et puis des opérations de maintenance qui peuvent s'opérer, et donc on fait une statistique et on fait une simulation extrêmement fine, hein. Voilà. Donc on tient compte des durées d'arrêt de tranche pour rechargement de combustible, simplement pour dire que c'est une simulation très précise. Alors, les paramètres qu'on a rentrés, alors je vais essayer de résumer la situation. Donc je vais utiliser le pointeur au maximum. Donc, en fait, ce que je vais présenter de manière visuelle après, c'est que nous avons travaillé sur deux scénarios orange. Alors, le scénario orange, ça correspond à une consommation basse. Si vous vous souvenez, c'est 458 TWh de consommation. Et puis le scénario bleu, c'est une consommation élevée, 521 TWh. Voilà. Donc le bleu, consommation élevée, orange, consommation faible. Et si on a une consommation élevée, bon, j'ai gardé uniquement la puissance installée élevée en nucléaire, et une consommation basse, c'est là que c'est intéressant de regarder deux scénarios et la sensibilité. Une puissance installée faible de 34 gigawatts, 34 000 mégawatts installés. Donc ce n'est pas beaucoup de tranches, c'est beaucoup de tranches arrêtées, comme vous avez vu. Et puis des tranches installées à une valeur beaucoup plus élevée. Donc 34 réacteurs arrêtés et ici 16. On a rajouté deux EPR dans ce scénario-là. Donc ça, je l'ai présenté tout à l'heure. Et là, les valeurs en pourcentage, c'est le total en térawattheure sur une année. Donc on s'est calé, selon l'hypothèse, qu'on est autour de 50% de puissance nucléaire délivrée, et puis un bouclage avec des moyens de production thermique. Et puis ici, on a supposé que l'autre partie des 50%, c'est principalement le photovoltaïque et l'éolien, donc les ENR. Donc avec des puissances installées donc assez élevé en éolien, donc de presque 60 000 MW installés. Aujourd'hui, il y en a 18 000. Et donc, ça suppose quand même d'avoir multiplié par 3 d'ici 2040, donc en 20 ans à peine. Et puis, pour le solaire, aujourd'hui, on est à 13 000, donc on passe à 43 000. Voilà. Donc, ça fait un total d'électricité renouvelable dans le scénario de 260 TWh, le complément étant fourni par le nucléaire. Voilà. Alors, peut-être un petit commentaire sur le thermique, ici, au niveau de la technologie. Ça ne sera pas du fioul ou du charbon d'aujourd'hui. Donc, et ça sera encore plus vrai en 2050. Les moyens de bouclage de la production d'électricité se feront avec des turbines à combustion, donc pour la pointe ou la super pointe, où le carburant pourrait être de l'hydrogène. Donc il y a des constructeurs comme Siemens qui considèrent qu'au-delà de 2035, ils seront capables de faire tourner des turbines avec de l'hydrogène, ce qui n'est pas facile parce que comme c'est léger, il y a beaucoup de fuites, donc avec l'oxygène, ça se marie mal, mais là, ils pensent être capables de le faire. Mais il y a aussi d'autres possibilités, c'est de faire des e-carburants. Donc les e-carburants, on récupère du CO2, parce qu'on va capter du CO2 dans des usines qui émettent du CO2, on va en capter de plus en plus, de l'hydrogène, et puis après on fait de la pétrochimie et on fait des e-carburants. Et ces e-carburants, donc il y a différentes formes de e-carburants, on peut les rentrer dans des turbines à combustion et faire de la super pointe. Alors, c'est très coûteux, mais en termes d'investissement de moyens installés, c'est pas très cher, mais les carburants sont chers. Donc c'est pour ça qu'on les utilise assez peu, mais il ne faut pas y voir que ce soit du fioul d'aujourd'hui ou du charbon, enfin pas du fioul ou du kérosène d'aujourd'hui. Voilà. Alors, la grande question, comment se situent les flux aux frontières? Donc, on a pris les hypothèses des lignes électriques aux frontières connues dans les scénarios, avec un peu de marge, mais on a pris toutes les lignes installées avec l'Espagne, avec l'Italie, la Suisse et l'Allemagne, et puis vers la Belgique qui passe à l'Angleterre, donc à IFA 2000. En face de Calais, là, et puis vers l'Irlande. Donc, dans ce paysage-là, d'hypothèses de lignes électriques installées, eh bien, selon les scénarios de consommation en France, donc consommation basse orange, ou consommation haute, bleu, on voit que en fonctionnant environ à 50% de nucléaire et 50% de renouvelables, eh bien, on reste sur une année exportateur. Alors évidemment, si on a peu de puissance nucléaire installée, on est faiblement exportateur. Alors aujourd'hui, on est plutôt à 60 TWh d'exportation sur un bilan annuel. Donc on est faiblement exportateur. Évidemment, si on a une grosse puissance installée, on est beaucoup plus exportateur. Voilà. Alors, c'est les flux après qu'on va regarder. Alors, les valeurs ici en terawattheure, ce sont des flux annuels cumulés. Et donc, on va naviguer scénario par scénario. Donc là, on est dans le scénario où en France, on a une consommation faible et une puissance nucléaire installée faible. Donc, comment sont les flux ? Alors, ce qui a été la surprise quand on a fait l'étude, c'est qu'en fait, c'est l'Espagne. Parce qu'on a pris ce qui était déclaré au niveau européen pour tous les pays, et puis il y a une réalité. En fait, l'Espagne installe et va installer énormément de photovoltaïques. Bon, c'est normal, hein, ils sont au sud, mais en très grande quantité. Et donc, en prenant les hypothèses des lignes interconnectées, alors aujourd'hui, il y en a assez peu de capacité de transit, il y en aura un peu plus, mais comme ils ont une grosse puissance qui pourront délivrer vers le reste de l'Europe, donc les lignes vont être saturées tous les jours. Quoi. Dès l'instant qu'il y a du soleil, les lignes sont saturées. Quoi. Alors, elles seront d'autant plus avec un flux important pour la France qu'en France, il y aura une puissance installée faible en nucléaire. Dès l'instant qu'il y a une puissance installée faible en nucléaire, ben, on va chercher l'électricité aux frontières d'autres pays, notamment des pays qui vont installer beaucoup d'éolien et de photovoltaïque. En Allemagne, il y a moins de soleil quand même. C'est moins efficace, mais beaucoup d'éolien. Ils ont des projets quand même très conséquents. Donc on voit ces flux. Et puis après, on exporte vers les autres pays. Donc ça, c'est un premier scénario qui montre quand même que il y a des débouchés. Quoi. Je veux dire, la France, avec ses moyens de production installés selon les hypothèses qui sont là, donc à la fois de consommation, de moyens de production installés nucléaires et d'énergie renouvelable, donc des moyens conséquents, on est exportateur et voilà les flux. Donc là, ce sont des valeurs un petit peu plus précises. Hein, donc, bon, on pourra y revenir s'il y a des questions. Je ne vais pas trop développer parce que ça donne les mailles journalières ou mensuelles. C'est pour montrer que c'est juste précis, quoi. On est capable dans ce scénario-là de dire quel est le mode de production dans les autres pays européens. On a les couleurs selon les périodes de l'année et quel est leur mode de production et leur répartition. Donc avec une puissance nucléaire beaucoup plus forte installée en France et toujours une consommation faible, hein, puisqu'on est en orange. Hein. Donc là, forcément, comme on a une puissance nucléaire installée beaucoup plus forte, donc là, il y a moins de flux possible qui vient d'Espagne, puisqu'on occupe le terrain, en quelque sorte, et puis après, c'est nous qui exportons vers les autres. Donc là, les Espagnols, ben, ils pourront pas évacuer leur énergie, hein, ils sont coincés hein, dans ce scénario-là. Hein. Donc c'est une difficulté pour eux. Donc il est possible, d'ailleurs, qu'en Espagne, ils s'orientent pour fabriquer de l'hydrogène. Et l'hydrogène, après, peut se transporter dans d'autres pays. On pourra en discuter, si vous voulez. Donc, ils ont d'autres possibilités, parce que ce qui les limite, c'est selon le nombre des lignes 400 000 volts de transit. C'est physique. Alors là, on change de scénario. Donc, c'est un scénario où, en France, on consomme. Hein, donc, un scénario de forte consommation. Et dans ce scénario-là, j'ai gardé qu'une seule hypothèse de puissance installée, donc qui est assez forte, hein, puisqu'on prend l'hypothèse qu'il y a 16 réacteurs arrêtés hein, et 2 EPR démarrés de plus. Et donc, à ce moment-là, on est fortement exportateur, équilibré avec l'Espagne, mais là, fortement exportateur, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein, ça fait un coefficient 2,5 par rapport à aujourd'hui. Mais a priori, les débouchés sont possibles parce qu'on a pris les hypothèses des moyens déclarés de production dans les projets chez les voisins. Voilà un petit peu pour illustrer. Alors, si je n'ai pas mis les paramètres financiers, compte tenu des grandes fluctuations financières qui existent, ça n'aurait pas vraiment de sens. Ce qui est intéressant, c'est que comme on connaît les moyens de production utilisés à tout moment de l'année chez les voisins, donc ça permet de simuler les émissions de CO2, hein, dans toute l'Europe. Et donc, plus c'est foncé, plus on émet du CO2. Donc, les émissions de CO2 du gaz, c'est environ 400 grammes de CO2 par kilowattheure, et le charbon, c'est 800-900. Hein. Le nucléaire, c'est 6. Hein. Un gramme de CO2 par kilowattheure. Donc, mais en plus, nous ayant une hypothèse nucléaire et énergie renouvelable, forcément, on émet très très peu de CO2. Hein. Bon, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein, si vous regardez sur l'application RTE, on est plutôt, l'année dernière, on était plutôt autour de 40-50 hein, de grammes de CO2. Donc avec plus d'énergie renouvelable installée, c'est quand même très atteignable, hein, ces chiffres-là, quoi. Et chez les voisins, donc, on voit le résultat donc, sur le CO2. Hein, s'ils restent sur ce qu'ils ont déclaré, après, ils peuvent accélérer leur évolution de moyens de production. Hein, ça, c'est possible. Mais on prend les hypothèses qu'ils avaient déclarées en 2018 pour les années 2040-2050. En France, la loi nous oblige à considérer que la production des énergies renouvelables, à la fois le photovoltaïque et l'éolien, c'est prioritaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des écrêtements, et donc ce sont les tranches pilotables qui doivent baisser. Donc l'hydraulique, le thermique s'il y en a, puis le nucléaire, ils doivent baisser, et c'est priorité donc en France, hein, c'est déjà le cas, hein, aux énergies renouvelables. Hein. Et donc ce qui fait que néanmoins, il peut y avoir des difficultés techniques, mais qui sont physiques à ce moment-là, de flux. Et donc, on a simulé les flux, hein, aux limites. Donc, c'est vraiment les limites physiques. Et, donc, elles existent, hein, les limites physiques. Donc, il y a des cas de figure où il faut quand même faire des écrêtements. Et donc, ces écrêtements, donc on les a chiffrés. On voit que sur une année, on discute quand même autour de 500 TWh. Donc les écrêtements existent, mais sont dans des valeurs très faibles. Donc ce sont des écrêtements physiques et non volontaires. Alors, là, c'est un visuel qui je vais prendre du temps à l'expliquer, qui permet de voir toutes les fluctuations. Alors, déjà, le choix de la semaine n'est pas neutre. Il y a des semaines en fin mars et en avril, et puis des semaines fin septembre et octobre, où il y a énormément de vent en France. Hein, comme je disais, il y a trois régimes de vent. Donc actuellement, on a de l'éolien sur terre, hein, il n'y a pas d'éolien en mer. Et on a pris l'hypothèse d'un certain degré d'éolien en mer en 2040. Hein, et donc on voit les... Donc on va voir les moyens de production. Donc les moyens de production sont en bas, et en haut, c'est la partie appel de consommation. Donc vous avez en fait un empilement. Donc vous avez d'abord l'empilement de la consommation en France. Donc le profil de la demande d'électricité en France, donc c'est la partie bleue, le socle bleu. Se rajoutent des exports, ou dans certains cas des imports. Après, on fait fonctionner ce qu'on appelle le stockage hydraulique, c'est-à-dire on fait du pompage, c'est-à-dire on remonte de l'eau en aval des barrages de manière à avoir du stock d'énergie. Donc on peut le faire jusqu'à 5000 MW hein, de stock en France. Hein, donc souvent la nuit, hein, on pompe hein, les steppes. Oui, tout à fait. Oui. Et même récemment, on a mis au point à Grand Maison, si vous connaissez, hein, c'est un des plus gros barrages en France, hein, 1800 MW. Hein. Donc on a 8 turbines hein, de 175 MW. On est en capacité maintenant, techniquement, de déverser et de pomper et remonter. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui baissent, qui déversent, et d'autres qui remontent, de manière à gérer des stocks. Parce que ce n'est pas les mêmes stockages. C'est immense hein, comme barrage, si vous n'avez pas visité. C'est une belle visite à l'occasion. Et donc, on fait du stock d'eau avec. Et il y a quelques écrêtements dont je vous ai parlé, des écrêtements, par exemple ici, c'est un écrêtement. Donc là, ça donne la structure des flux pour la consommation, donc la demande en France, les exports. Là, on consomme parce qu'on remonte de l'eau en amont du barrage, et puis dans l'autre sens, c'est négatif, c'est des écrêtements. Et comment on fait pour produire tout ça? Alors le socle gris, c'est la production nucléaire. Donc vous voyez, c'est quand même assez chahuté. Hein. On a une production nucléaire à peu près à 40 000 MW. Et puis là, il y a des périodes, le samedi et le dimanche, hein, c'est normal, il y a moins de consommation, il faut descendre à 8 000. Hein. Vous voyez, il y a une forte plongée dans cette semaine-là en 2040. Hein. On est en 2040. Hein. Voilà. Donc c'est selon un scénario quand même, c'est pas un scénario extrême, hein, c'est un scénario entre l'extrême et la moyenne. Et après, donc, on empile donc, un ajustement en marron donc, avec de la super pointe en turbine à combustion, l'hydraulique. Donc, vous voyez, donc, alors, l'hydraulique, il y a deux couleurs bleues, hein, parce que vous savez que dans l'hydraulique, il y a du fatal, donc du fil de l'eau, et puis des barrages à déniveler. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux couleurs bleues. Hein. Donc, vous avez en bleu l'hydraulique. Et puis, ce qui est intéressant, sur ce scénario, parce qu'il est avant tout climatique compte tenu du choix de la semaine, c'est l'éolien. Hein, l'éolien qui, certains jours, est très très fort. Hein. Donc, et c'est ce qu'on a voulu simuler. Hein. Et puis autrement, ben, chaque jour, hein, on a la puissance, quand il y a du soleil, la puissance venant du photovoltaïque. Bon, c'est quasiment constant, vous voyez. Hein, un petit peu plus de soleil ce jour-là. Hein. Et puis la nuit, ben, il n'y a rien. Quoi. Donc ça vous donne comment c'est chahuté. Quoi. Et on a regardé un cas plus extrême. Parce que là, dans ce cas extrême, alors c'est très rare, mais on est en situation où il faudrait arrêter tous les groupes nucléaires pendant 3 jours pour pouvoir tenir tout le réseau électrique. Entre la consommation de ce profil-là, donc le socle en France en bleu, les exports, quelques écrêtements, et puis le pompage. Hein. Donc ça, c'est le socle de consommation. Et en face, comme il y a beaucoup de vent, et surtout ici, il y a beaucoup de vent, et peu de consommation, ça baisse le week-end, eh bien, il y a des périodes où il faut vraiment baisser fortement les tranches nucléaires. Donc c'est vraiment une forte flexibilité qui va s'opérer un certain nombre de jours dans l'année, mais pour arriver à conjuguer les moyens de production photovoltaïque et éolien. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Donc, on a pris deux scénarios de consommation en 2040, donc une consommation légèrement basse par rapport à aujourd'hui, hein, 458 par rapport à 468, donc c'est légèrement basse, hein, et puis plus haute de 40 ou 50 à 520. Et des hypothèses de moyens de production éolien, photovoltaïque, hydraulique et puis nucléaire installé. Dans tous les cas, on est exportateur dans ces scénarios-là. Donc, et on tient compte de la puissance installée de nos voisins selon ce qu'ils ont déclaré jusqu'à présent. On voit quand même que la production solaire européenne va avoir un impact majeur sur la manière dont on va piloter en France l'hydraulique et le nucléaire. Ça, on voit bien qu'avec les flux qui arriveront d'Espagne et puis les grosses valeurs de photovoltaïque installées, en milieu de journée, ben, il faudra vraiment baisser beaucoup de tranches nucléaires et puis après les remonter et puis jouer aussi sur l'hydraulique, hein, et puis de la super pointe avec des turbines à combustion. On voit quand même que ça va bouger, quoi. C'est une réalité. Hein. Plus on va avoir du photovoltaïque, surtout. Et donc, on voit aussi que pour assurer physiquement, on est amené physiquement à avoir quelques écrêtements, mais ça reste quand même des écrêtements de faible proportion, de quelques pourcents. Alors ça, c'est le respect de la loi. Alors, d'autres pays n'ont pas la même loi. Ils peuvent écrêter plus. Ça, ce sont des choix. Ce sont des choix politiques. L'empilement des moyens de production, on les a pris par coût croissant. Après, les règles de gestion financière peuvent changer, mais là, on a supposé que ça n'avait pas changé. C'est ce qu'on appelle des coûts croissants ou le mérite order, vous avez peut-être entendu ce terme-là. Donc, on empile, on utilise d'abord, RTE utilise d'abord les moyens de production les moins chers, donc que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien, du nucléaire, et puis après, il prend ce qui reste et il va jusqu'au plus cher. Donc, c'est vraiment des coûts croissants. Donc, on a supposé que cette règle-là ne changeait pas. Alors, évidemment, ça, si ça change, ça peut changer totalement la physique du système. Ce qu'on voit, c'est quand même, il va falloir s'organiser pour piloter et changer la répartition des arrêts de production sur l'année, parce qu'on voit qu'à certaines périodes de l'année, c'est-à-dire si on a un peu moins de réacteurs nucléaires et beaucoup plus d'énergie renouvelable installée, on va sans doute concentrer des arrêts de tranche au printemps et à certaines périodes de l'automne. Bien sûr, l'hiver, il faut que tout soit disponible. Mais l'été, il faudra sans doute beaucoup plus de moyens de production, puisque l'été, il n'y a pas de vent. Quand il fait beau, quand il fait chaud, on bénéficie que d'éolien en mer, mais sur terre, il y a très peu de vent. Par contre, il fait chaud. Surtout vers 2040-2050, il fera plus chaud. Donc, il y aura de la consommation avec les climatiseurs, qui va augmenter, quoi. Donc, on voit que la manière de gérer la maintenance dans les centrales, nucléaire, mais aussi hydraulique, elle va bouger dans le temps. Ça va bouger dans le temps, on va en tirer des conséquences. Et puis après, dans le pilotage quotidien, ça nous permet de petit à petit de nous organiser dans le pilotage. Alors après, sur le réseau électrique, parce qu'il y a un paramètre qui est très important pour RTE, que je n'ai pas montré, c'est selon les mailles du réseau électrique, plus on va avoir installé de manière décentralisée des moyens de production photovoltaïque et éolien, donc le maillage va être encore plus diffus de la distribution électrique. Donc il peut y avoir des problèmes d'équilibre, de tension localement. À ce moment-là, on va avoir beaucoup plus de batteries qui vont être installées localement de manière à passer ces petites difficultés de tension. On a fait des simulations en installant 6000 ou 8000 MW de batteries, ça permet de passer les choses. Mais c'est juste pour passer les points de congestion, comme on dit. C'est pas pour délivrer de la puissance massive, c'est pour passer les points de congestion. Mais la congestion va augmenter au fur et à mesure qu'il y aura plus de photovoltaïque et plus d'éolien qui vont délivrer sur le réseau, qui sera plus diffus. Mais ça peut se corriger avec des condensateurs ou des batteries. Ça se développe déjà. Voilà. Et donc, on peut penser que le nucléaire et l'hydraulique vont être amenés à apporter un service de flexibilité encore plus. Et on peut penser que le mode de rémunération va un peu changer. Parce qu'actuellement, il n'est pas favorable. Voilà. Donc, j'arrive aux questions. Je vous laisse. Oui. Oui. Oui, c'est la même courbe. C'est le même total, mais là, d'un côté, vous avez la consommation et ici la production. Et les deux doivent être équilibrés parce qu'il faut fonctionner à 50 Hz. Je crois que vous avez eu des présentations qui ont été faites par d'autres orateurs. Mais ce n'est pas naturel.
C'est intéressant parce qu'on voit l'extrême.
Oui, par exemple, voilà.
Oui.
Oui, oui, la consommation bouge beaucoup et. Voilà. Alors, il y a un nouveau produit qui va se développer. C'est ce qu'on appelle le Power to Grid. Plus on va avoir des voitures électriques ou même des moyens de transport plus gros, on va avoir plus de batteries. Et donc, il y a sûrement un service financier qui va se développer, qui va inciter les utilisateurs à charger leurs batteries à certaines périodes de la journée et puis à rester branchés à d'autres périodes de manière à ce que des batteries se déchargent et alimente les réseaux. Mais quand vous avez 40 millions de véhicules qui sont susceptibles de faire ça, ça fait de la puissance. Donc après, ce sont des choix politiques et ce sont des choix financiers, parce qu'on peut corriger. Actuellement, on a un certain équilibre où la nuit, on a moins de consommation en France. Puis on a toujours une forte production. Donc on a un tarif qui favorise à utiliser des moyens de consommation dans les domiciles, hein, à la maison, avec des prix intéressants, quoi. Hein, bon, oui, les cumulus, il y a des tarifs. Alors ça s'est un petit peu atténué au fil du temps, ces tarifs-là, mais dans le futur, ça peut être un moyen de correction, quoi. Et plus on aura d'ailleurs du photovoltaïque, plus on peut penser que ces moyens de correction incitatifs vont arriver, quoi. Hein, puisque les photovoltaïques, surtout comme les politiques le disent actuellement, ils envisagent jusqu'à 100 000 MW en 2050 de photovoltaïque installés. Ben là, ça fait une très grosse puissance la journée. Hein. Et puis dès que la nuit commence à tomber, alors je pense que la technologie va évoluer, il y aura des batteries, mais ce qu'on va développer aussi, c'est sans doute du stockage thermique. Vous savez, vous avez des sels fondus qui gardent de la chaleur longtemps, et ça permet de gagner quelques heures. Hein. Alors, par exemple, on avait gagné, nous, un beau projet au Maroc. Mais là, pour des raisons du Covid, c'est en stand-by au Maroc. C'est un énorme parc photovoltaïque, je crois 800 MW, mais avec du stockage tampon à sel fondu. Ce qui permet de... On n'arrive pas à couvrir la nuit, mais on couvre quand même 6 heures de la nuit. Donc c'est quand même intéressant, quoi. En plus, comme c'est plus au sud, donc c'est un peu plus équilibré entre le jour et la nuit. Hein. Ça couvre pas toute la nuit, mais c'est 6 heures de plus par rapport au jour. C'est assez intéressant comme délivrance d'électricité, surtout à partir d'un socle de 800 MW, quoi. Voilà. Donc des produits technologiques vont se développer, quoi. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Ici.
Oui, quel est le coût énergétique et donc financier de l'installation des moyens de production d'énergie renouvelable par rapport au nucléaire, et quelle est aussi comparativement la durée de vie, donc ce qui implique un coût, évidemment.
Tout à fait. Alors, c'est dans la presse, hein, je l'ai vu encore cette semaine, hein, donc aujourd'hui en France, on a mis 200 milliards. Donc qu'est-ce qu'on a pour 200 milliards aujourd'hui en France? On a, alors je vais vous le marquer, je vais vous le montrer, ce sera plus facile puisque je l'ai. Hein. Voilà. Hein, vous voyez, pour 200 milliards. Cumulé, hein, sur les 20 dernières années. On a 13 000 MW de photovoltaïque installés, presque 19 000 MW d'éolien, et puis on a adapté le réseau électrique. Ce sont des investissements. Tout ça, ça nous a coûté 200 milliards. Hein. Et en face, si on veut investir dans 6 réacteurs EPR, hein, c'est un presse, hein, ça a même été audité, c'est environ 50 milliards, 6 réacteurs. Donc 6 réacteurs nucléaires, ça fait donc 6 fois 1600, ça fait environ 10 000 MW. Mais à ce moment-là, c'est pilotable, mais il faut 50 milliards. Et là, pour 200 milliards, vous avez eu de l'intermittent, mais vous avez 30 000 MW. Donc, mais plus les années passent, moins c'est cher. Hein, le PV et l'éolien, les prix baissent. Hein. Donc ce que je veux montrer, c'est que dans les deux, il y a trois choses qui coûtent. C'est-à-dire, ce qui coûte, c'est à la fois de l'éolien et du photovoltaïque, parce que même si le prix élémentaire baisse, il faut en acheter les grandes quantités, hein, compte tenu de l'efficacité. Les réacteurs nucléaires, ça coûte cher. Mais ce qui coûte aussi très cher, c'est le réseau électrique. Alors, souvent, on n'en parle pas, mais le réseau électrique, ça coûte. Hein, vous regardez les investissements de RTE ou d'Enedis, ce sont des... Enedis, c'est 4-5 milliards par an, hein, tous les ans. Alors, c'est payé, hein, par vous, hein, par nous, les consommateurs, hein, bien sûr, mais ce sont des investissements cumulés, et plus le réseau est diffus, plus il faut investir. Donc, ce sont des gros investissements. En Allemagne, ils ont déjà investi 1000 milliards. Alors, la durée de vie, effectivement, c'est une question intéressante. L'éolien, on est autour de 15-20 ans. Éolien sur Terre. Éolien en mer, on n'a pas beaucoup d'expérience. C'est plus corrosif. Bon, bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher. Ce sont des machines plus grosses. En éolien en mer, je ne sais pas si vous avez déjà vu peut-être cette semaine à la télévision, on a vu les tubes là, qui, à Saint-Nazaire là, qui partent en mer. Hein. Mais là, ce sont des éoliennes de 8 MW. Mais à 8 MW, c'est l'envergure des pales, c'est presque la hauteur de la tour Eiffel, quoi. Donc c'est 250 mètres. Vous voyez, vous avez trois pales, et puis quand vous prenez les extrêmes, c'est 250 mètres. Donc vous voyez, ce sont des machines énormes. Hein. Et pour l'instant, on doit être autour de 15-20 ans de durée de vie. Voilà. Centrale nucléaire, on vise 60 ans. Et les réacteurs actuels, on travaille pour dépasser 60 ans. 65, 70 ans sans doute. Voilà. Certains, pas tous. Hein. Puisque selon la vie de chaque réacteur, il y a des travaux bien précis. Et dans certains cas, il y a des morceaux de l'installation qu'il faudrait changer, mais c'est trop coûteux. À ce moment-là, on décide d'arrêter, quoi. Alors nous, on n'a pas cette expérience en France, donc on suit ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les réacteurs nucléaires sont 10 ans plus vieux, quoi. Et donc, ils ont déjà fait ces arbitrages. Dans certains cas, ce n'est pas rentable de continuer, donc ils s'arrêtent parfois à 55 ans. Puis d'autres fois, ils vont les pousser plus loin. Voilà. Tout ça en toute sûreté, quoi. Une centrale au fioul ou au gaz, c'est 30 ans à peu près, 30 ans. Alors, bon, déjà, quand on est dans une centrale nucléaire, en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, il n'y a aucune commande qui passe par Internet. Tout est à l'intérieur, quoi. Donc vous avez du contrôle-commande. Et donc dans ce contrôle-commande, il ne passe pas par de l'extérieur. Donc une attaque de l'externe est déjà très, très limitée, quoi. Après, il peut y avoir des choses plus sophistiquées, hein, qui interagissent avec des chips, des micro-composants de contrôle-commande. Et là, on s'assure, nous, on a des contrôles pour être sûr qu'ils soient tous bien contrôlés sur le plan de la cybersécurité, parce qu'ils peuvent être commandés à distance. Hein, donc, certains cas peuvent être commandés à distance. Donc là, tout ça, c'est bien... c'est bien chassé, puis on les élimine de manière à ce qu'ils ne soient pas rentrés de manière non voulue, quoi. Donc il y a beaucoup de contrôles de cybersécurité. Donc on veille à ce que les commandes de matériel sensible, alors c'est vrai pour une centrale nucléaire, mais c'est vrai aussi pour d'autres machines dans l'industrie, hein. On fait tout pour ne pas passer par Internet pour faire des commandes, alors que à votre domicile, beaucoup d'appareillages, c'est vraiment moins cher de passer la télécommande par Internet. C'est ce qu'il y a de moins cher, quoi. Donc à ce moment-là, il y a moins de contraintes de cybersécurité chez vous, quoi. Mais dans des usines sensibles, donc on travaille bien sûr pour pas être rentré par les réseaux, mais il y a des choses plus compliquées, quoi. Parce que comme c'est du contrôle-commande, c'est de l'électronique, il y a quand même des choses qu'il faut contrôler, quoi. Je vais juste vous dire que vous savez très bien qu'il y a une usine en Iran il y a une quinzaine d'années qui faisait du tournée de l'uranium, où il y a eu un petit composant à partir d'une clé USB qui a été rentrée par les Israéliens, hein, et ça a mal fini pour la centrifugeuse, quoi, hein, voilà. Donc il y a des choses comme ça. Bon, bien sûr, on a tout un arsenal pour se protéger, mais ceux qui attaquent aussi ont tout un arsenal. Donc c'est une guerre permanente, hein, faut pas s'en cacher.
Le glaive et le bouclier.
Voilà, c'est permanent.
D'autres... Oui, vas-y.
Oui. Donc déjà, ce qui sort, c'est du courant continu, hein. Puisque ce qui sort d'une éolienne, c'est de l'électronique de puissance, hein. Donc ça transite en courant continu, et on a des stations intermédiaires. Alors je ne suis pas expert du sujet, hein. J'ai vu quelques quelques explications, mais c'est pas mon domaine de spécialité, donc je pourrais pas vous donner beaucoup de détails. Et quand on arrive sur Terre, on reconvertit en alternatif, mais on a des stations intermédiaires pour tenir justement la puissance et l'attention. Oui. Après, les technologies, je pense que c'est en train d'évoluer, quoi. Alors, Alors, je ne pense pas que ce soit à cause de l'éolien en mer, mais je ne sais pas si vous avez suivi, on est en train de vivre une révolution technologique sur l'électricité, quoi, puisque compte tenu qu'en Asie, ils ont de très longues lignes électriques, parce qu'ils ont des moyens de production, des utilisateurs qui sont très éloignés, donc ils sont intéressés, et ils ont déjà des lignes de puissance à courant continu. Et progressivement, il y a un basculement de composants électriques vers des usages courant continu, alors que nous, historiquement, enfin dans tout le monde occidental, on est plutôt en alternatif. Donc, il y a un peu une lutte entre l'alternatif et le continu. Mais ce n'est pas à cause de l'éolien en mer. Mais néanmoins, ça fera ça de plus pour, sans doute, les équilibres actuellement sont précaires au niveau de la fabrication industrielle des composants électriques. Et là, on voit petit à petit que le courant continu reprend de la vigueur. Il était important à la fin du 19e siècle, puis après il a perdu. Et là, il reprend de la vigueur. Bah, l'hydrogène, je tendance à dire que c'est facile. Parce que ça se met en bonbonne, quoi. Je veux dire, c'est un gaz, ça se transporte bien, l'hydrogène. Bah, vous avez différents usages, mais jusqu'à 700 bars. Hein. Mais tout, évidemment, vous n'allez peut-être pas le mettre dans votre voiture, mais vous avez des voitures à hydrogène, mais ce n'est pas les mêmes pressions. C'est l'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'on peut le produire à un endroit assez éloigné de son usage, puisque l'hydrogène est très transportable. Ça, c'est sa force. Ouais. Ce n'est pas industriel. Ça, c'est son atout. Et d'ailleurs, on voit bien les luttes un peu politiques. Certains, avant les troubles actuels, voyaient très bien de mettre des champs énormes de solaire en Afrique du Nord, fabriquer de l'hydrogène en Afrique du Nord, ce qui permettait d'utiliser de la main-d'œuvre locale, finalement, de délivrer beaucoup de travail sur place, donc ça évite aussi aux gens d'aller chercher du travail ailleurs, hein. Donc il y avait un côté quand même assez noble à l'affaire, et donc de fabriquer massivement l'hydrogène et après de le charger et de l'emmener en Allemagne principalement, quoi. Mais alors ce modèle-là, il est un petit peu remis en question, mais il y a quand même ce modèle-là, quoi. C'est-à-dire c'est une lutte un peu entre ce modèle hydrogène, mais pas fabriqué en Europe parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour le faire. En Europe, il faut des champs énormes, donc plutôt là où il y a beaucoup de soleil, hein, et par rapport à d'autres moyens de production comme le nucléaire, quoi. Donc on voit quand même ces luttes d'influence entre hydrogène et nucléaire. Et il y a quand même des intérêts financiers énormes des deux côtés, quoi. Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas assez spécialiste. Mais dans de tous mes collègues, hein, qui travaillent sur le sujet hydrogène, je leur ai posé la question comme vous, hein, parce que j'étais un peu méfiant avec les voitures à hydrogène. On me disait, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est assez sécurisé, non, ils m'ont dit que c'est la force, c'est que on peut mettre dans des bonbonnes à 700 bars et c'est très transportable. Ouais. Oui, oui. Enfin, vous savez, bon, dans l'industrie, on manipule les choses. Oui. Ah oui, on est d'accord. Et c'est pour ça que il y a un grand challenge technologique devant nous. Il sera gagné ou sera perdu. Nous, on a posé la question, nous, EDF, il y a quelques semaines, au plus haut niveau technique de Siemens, et il est très confiant d'être capable, 2035-2040, de faire tourner presque à 100% d'injection de gaz hydrogène des turbines de production d'électricité. Et s'il y arrive, ça change beaucoup de choses. Ça ne change pas tout, mais ça change quand même des paramètres. Parce qu'actuellement, ce qu'on appelle le power to X n'est pas rentable, c'est-à-dire on a du solaire, on fait de l'hydrogène électrolytique, cet hydrogène on le transporte, on le comprime, on le transporte, et on le charge pour faire du gaz dans des turbines électriques, et puis on sort de l'électricité. Le rendement de la chaîne, c'est 25%, donc c'est pas intéressant. Mais si les turbines, on peut charger plus d'hydrogène à l'arrivée, on change le modèle, et là ça peut changer les conditions. C'est une vraie. Non, mais c'est une grande question, hein. C'est la matière première. Alors, au niveau industriel, ça fait déjà, nous, au niveau industriel, mais quand on produit, on distribue l'électricité, on est plutôt systémique, comme on dit dans l'industrie, c'est très capitalistique, hein, c'est ce qu'il y a de plus capitalistique, l'électricité, mais on est systémique. Mais il y a ceux qui fabriquent des équipements, hein, les équipementiers. Mais nous, en tant que systémique, c'est un sujet qu'on regarde depuis 15-20 ans, hein, la matière première qui nous est sensible. Hein. Alors, bien sûr, nous, l'uranium, on regarde ça depuis le début. Hein. Donc, on a, comme tous les industriels, et puis parfois on échange des informations, on a une cartographie très précise de toutes les matières premières dans le monde et son sensibilité, et les projections politiques et les sensibilités, hein, c'est sûr, on a des cartos du titane, du cobalt, de l'indium, enfin de tous les constituants dont on a besoin dans des batteries ou dans d'autres produits, hein. Ça peut être des produits pharmaceutiques aussi, hein. Il y a des produits pharmaceutiques, il y a des matières premières rares, hein, dedans, hein. Donc ça c'est sûr que selon l'équipement dont on parle, la matière première est parfois concentrée sur certains pays, quoi. Bon, souvent, c'est dans plusieurs pays, hein, heureusement. Mais c'est en général déséquilibré, c'est vrai, c'est déséquilibré. Donc c'est une autre forme de lutte de pouvoir qui est en train d'émerger, on le voit déjà. Hein. Alors ce qui se développe quand même, c'est la réutilisation, c'est la deuxième vie des batteries. C'est compliqué, mais ça commence à progresser, la deuxième vie des batteries.
Une question. On voit dans votre présentation donc l'importance des flux. Déjà, ça pose deux questions. C'est que techniquement, finalement, des décisions qui sont prises dans un autre pays que le nôtre ont un impact capital sur la résolution ou l'absence de résolution du problème. On parle très souvent des trois centrales nucléaires allemandes qui restent en disant on les arrête, on ne les arrête pas. Bon, ça c'est un sujet qui est visible médiatiquement. Les lignes qui passent les Pyrénées, on n'en parle pas, sauf quand il y a des manifestations dans les vallées des Pyrénées. Il y a un autre sujet, c'est la fameuse ligne, enfin les lignes qui vont de la Baltique à la Bavière, pour lesquelles il y a des oppositions très violentes. En Allemagne, c'est-à-dire la puissance est bien dans la Baltique, mais il faut l'amener, disons, dans les régions industrielles du sud de l'Allemagne. Et donc, il y a des lobbies puissants en Allemagne qui tentent d'empêcher le développement de ces lignes qui sont vitales pour l'interconnexion de tout le réseau européen. Alors, c'est plus un commentaire, mais vous pouvez réagir par rapport à ça ?
Bah, si vous voulez, on entend souvent parler d'opposition ou d'acceptabilité par rapport à une centrale nucléaire. Souvent, les discussions sont longues. Mais moi, dans ma carrière, j'ai été amené à travailler de près à la construction de lignes électriques, notamment dans le sud de la France, pas loin de la Côte d'Azur. On n'a jamais pu la tirer, la ligne. Donc, les oppositions sur l'électrique, en général, les discussions, les négociations, les recours juridiques, c'est 10-12 ans pour une ligne électrique. Donc, en Allemagne, ça a duré 20 ans, ce que vous évoquez là, entre Nord et le Sud de l'Allemagne. C'est ce qui explique que l'Allemagne a pris du retard, hein, parce que l'Allemagne vient de 5 réseaux électriques, alors que nous, on n'a qu'un seul réseau électrique historique, hein, qui s'est constitué à peu près vers 1950. Hein, et alors que l'Allemagne, compte tenu de son histoire, 5 réseaux électriques et qui n'étaient pas bien connectés, hein, surtout pas entre le nord et le sud. Et donc ils ont pris toutes les discussions, les passages, et puis il y a une densité de population aussi en Allemagne. Hein, ils ont pris 20 ans de retard. Donc passer des lignes électriques dans un pays, c'est difficile. Et puis aux frontières, c'est aussi difficile. Alors, quand même, pour vous rassurer, en France, jusqu'à présent, et puis même les candidats en place, on a l'air de prendre le même chemin, c'est de chercher à ce qu'on ait des moyens assez autosuffisants, quoi, et qu'on soit même souvent exportateur. Alors, il y a des périodes où on est importateur, comme actuellement, on est un peu plus importateur, mais transitoirement, on peut l'être, mais en général, on est plutôt autosuffisant, ce qui n'est pas l'approche de nos voisins européens. Nos voisins européens sont souvent déficitaires, hein, et il faut faire très attention hein, dans les programmes qui sont affichés. Moi, je fais toujours les additions, parce qu'il y a des gens qui disent... on va arrêter des centrales charbon, les gens en arrêtent tellement que, bon, c'est bien de les arrêter, mais à un moment, il y a un problème de production d'électricité, quoi. Et ce problème, il arrive maintenant, quoi. Et ça, en faisant les additions, on le savait déjà 10 ans en avance, hein, on le savait. Donc, il y a ces questions d'autosuffisance qui sont plutôt une approche française, c'est pas toujours le cas de nos voisins. Donc, c'est pour ça qu'aux frontières... C'est un choix compliqué hein, sur le plan politique et industriel. On a cherché un équilibre. À un moment, on était plutôt, 10 ans, 15 ans en arrière, sur une certaine forme d'autosuffisance et de pas trop pousser aux interconnexions frontières, donc être assez autosuffisant. Là, plutôt, on a développé pas mal d'interconnexions en 10 ans, hein, mais il pourrait y en avoir plus. Hein. Il y a aussi des choix, hein, des choix industriels et des choix politiques. Parce que si on est trop ouvert, on peut avoir des problèmes financiers à l'arrivée aussi. Hein.
D'autres questions? Je rappelle, enfin, s'il y a d'autres questions, là, un petit rappel. Ça devait être en 2018 ou 2019, je n'ai pas vérifié avant de le dire. Là, on a eu une conférence de M. Flucher, qui est également un ancien de d'EDF, c'était à l'IUT, sur l'aspect technique de la stabilité du réseau, la régulation par la fréquence du réseau. Hein. Donc c'était très intéressant. Donc si vous voulez réviser, parce qu'évidemment c'est du non-dit ici, on considère qu'on maîtrise cette chose-là, parce que médiatiquement, si vous voulez, ça c'est quelque chose qui n'est pas très sensible au niveau du public. C'est-à-dire, on dit, il y a du courant, ma foi, ça se débrouille, des gens s'en occupent. S'en occuper, c'est compliqué. Hein, donc, et ça marche parce qu'il y a des systèmes qui permettent de résoudre le problème. Donc, on a une conférence entière que vous pouvez... Donc, monsieur Flucher, donc stabilité des réseaux électriques, régulation des réseaux électriques... je voulais dire autre chose, j'ai déjà oublié quoi. Donc, on a un autre sujet sur le Connex. J'ai oublié. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a d'autres questions? Bon, on va quand même remercier M. Le GAC, parce que je pense que même nous, certains d'entre nous qui connaissons un peu le sujet, on apprend toujours quelque chose. Donc, merci. Hein, donc, alors, cette conférence, bien sûr, elle sera sur le site, comme toujours. Et donc, je rappelle que cette conférence, elle était organisée en coopération, en partenariat avec la SFEN Bourgogne-Franche-Comté. Cette conférence sera accessible à tout public, puisque sur le site de la SFEN, il est, par définition, c'est accessible à tout public sans mot de passe et sans cotisation particulière. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le voir sur le site de la SFEN, vous tapez SFEN Bourgogne et puis vous pouvez l'écouter. Donc vous avez, comme d'habitude, la présentation visuelle avec les graphiques et puis le son de l'enregistrement. Voilà. Donc, merci encore et bonnes vacances de Pâques puisque c'est la dernière conférence avant les vacances. Donc, le mois prochain, on a 3 ou 4 conférences qui ont été des conférences qui ont été décalées pour des raisons que vous pouvez imaginer. Donc, vous les verrez sur le site et sur le bulletin. Donc, en particulier, une conférence, il y a le directeur de la bibliothèque Mazarine qui vient Bibliothèque Mazarine, c'est quand même une référence, hein, qui vient nous parler de l'influence de l'invention de l'imprimerie sur la société européenne. Hein, voilà. Donc, et puis à l'année prochaine, et puis déjà au mois prochain, et puis on verra bien pour la suite. Voilà, merci beaucoup. PN, hein, voilà. Donc, et puis.